I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort. Cette semaine, hein, Qui c'est le plus fort, spécial cyclisme, puisque nous allons évoquer les grandes années du Tour de France, déterminer quel est le plus grand, le plus beau Tour de France de l'histoire. Pour en parler, trois personnes aujourd'hui avec moi. Béatrice Houchard, journaliste et chroniqueuse sur Eurosport. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Benoît Vitek, également journaliste spécialiste notamment du cyclisme, qui écrit également sur Eurosport. Salut Benoît.
Salut Adrien, salut tout le monde.
Et Laurent Vergne, que vous connaissez, qui est également journaliste à la rédaction d'Eurosport. Salut Laurent.
Salut Adrien, bonjour à tous.
Cette émission et ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, d'Acast à Spotify, en passant par Deezer ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, mettez-nous 5 étoiles si ça vous plaît, ça nous permet de remonter dans les classements et puis également nous laisser des petits commentaires, ça nous permet également de nous améliorer au fur et à mesure des épisodes. On va commencer tout de suite. Vous allez me dire en quelques mots rapides quel est le tour que vous avez choisi de défendre et pourquoi. Honneur à Béatrice, quel est le tour que vous avez choisi de défendre?
Bien, moi, je vais choisir le tour 1964. Alors, parce que c'est le privilège de l'âge, c'est mon plus vieux souvenir du Tour de France. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça n'est pas un souvenir de sport. Mon souvenir, c'est ce 14 juillet 64, un mardi. C'est bon, le tour n'arrivait pas un dimanche, mais toujours le 14 juillet à l'époque. Et il y avait ce suspense, Anquetil ou Poulidor, sans doute Anquetil, mais après tout, peut-être Poulidor dans la dernière étape contre la montre de Versailles-Paris. Et un suspense tel que dans toutes les familles de France, y compris la mienne, où on s'intéressait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout au cyclisme, tout le monde avait choisi son camp. C'est-à-dire que le Tour de France dépassait vraiment, c'est là que j'ai compris pour la première fois, je l'ai souvent compris par la suite, que c'était évidemment une course cycliste, mais beaucoup plus qu'une course cycliste.
On va détailler tout ça. Benoît, quel est le Tour de France que tu as choisi de défendre de ton côté?
Je nous ramène beaucoup plus près de nous. Moi, je vais vous amener en 2019, la dernière édition du Tour de France. C'est tout frais, c'est tout chaud. Mais en même temps, je vais essayer de vous montrer que cette édition du Tour de France a réuni énormément d'ingrédients qui lui permettront de rester durablement dans les mémoires, à la fois au niveau du palmarès, mais aussi de la manière dont il nous a transportés émotionnellement.
C'est vrai qu'il est encore tout frais dans nos têtes et on s'en rappelle plutôt très bien. Laurent Vergne, une autre édition entre les deux, il n'y a pas forcément le choix. Enfin si, ça pourrait être plus vieux encore.
Ouais, à peu près, pas pile entre les deux, mais pas loin. Le Tour de France 1989, qui est à la fois, à titre personnel, un très grand et un douloureux souvenir. Et à titre moins personnel, parce que je pense que c'est un tour qui, en termes de dramaturgie, a très peu d'équivalent de la première à la dernière journée.
Avec la victoire de Greg LeMond, on y reviendra. Les fameuses 8 secondes.
Exactement.
On va commencer par Béatrice, parce qu'on a décidé de vous présenter les choses de manière chronologique. Voilà, c'est un choix qu'on a voulu faire avec le Tour 1964. Évidemment, ce duel Anquetil-Poulidor. Alors, on avait déjà eu un petit peu l'eau à la bouche avec ce que vous nous avez donné en introduction, avec ce côté, bah, ça dépassait le cadre du cyclisme et même du sport. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les supporters de Poulidor, de l'autre côté les supporters d'Anquetil, et ça se chamaillait à cette époque.
Ah, ça se chamaillait, on s'engueulait dans les repas de famille, oui, ça n'était pas l'affaire Dreyfus, quand même pas. C'est quand même beaucoup moins grave que l'affaire Dreyfus, mais les repas de famille se terminaient mal. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ça concernait, je vous dis, je prends l'exemple moi, de ma propre famille, où mes parents préféraient plutôt Bach à Bobet et Ravel à Vincennes-Bergen, mais tout le monde avait choisi son camp. En l'occurrence, j'avais choisi le camp de Poulidor, alors qu'on était normand. Je n'ai pas tout compris dans cette histoire de famille, mais voilà, c'était quand même l'histoire. Et en plus, c'était un duel franco-français. Dans une époque où le cyclisme français était très gagnait beaucoup, mais dans une époque où pour le sport, en revanche, en tennis ou en football, c'était plutôt des années de vaches maigres. Donc le cyclisme relevait très haut le drapeau français, et un duel franco-français pendant 3 semaines.
C'est aussi, on en parle souvent de ce Tour 1964 par une formidable image des deux coureurs qui sont presque à se toucher dans le Puy-de-Dôme. Et au-delà d'une image, c'est une étape mythique, cette étape du Puy-de-Dôme.
Alors, c'est une étape mythique, elle est là-haut sur la bibliothèque, la fameuse photo. Et en même temps, c'est une part de légende parce qu'en fait, on croit que, mais la légende est souvent, parfois en tout cas, plus belle que la réalité, que Poulidor perd ce jour-là. En fait, il a perdu le Tour à peu près tout le temps pendant les 3 semaines. Il le perd quand il tombe, son mécanicien le pousse, il tombe sur la route de Toulouse. Il fait cette erreur, faute professionnelle, hein, je crois qu'on peut dire ça, et j'aime beaucoup Poulidor, donc je le dis avec beaucoup d'affection pour lui. L'arrivée à Monaco, il y a une minute, vous rendez compte, une minute de bonification pour le premier des étapes dans ce Tour 64. Il termine, il est premier, sauf qu'il y avait encore un tour, et donc le temps qu'il prenne son effort, Antil est passé, c'est Antil qui prend la minute de bonification. Or, à l'arrivée à Paris, Antil gagnera avec 55 secondes. Et puis, il le perd aussi, la fameuse étape du port de l'Orvalira. Alors, on est dans les pics, vous savez, Antil a vu ce mage qui lui a dit qu'il mourrait ce jour-là. Donc, il y a le méchoui la veille lors de l'étape de repos. Antil est persuadé qu'il ne passera pas la journée suivante. Il est en perdition au sommet du col, il revient dans la descente. Quelques arrangements au sein du peloton, semble-t-il, ça arrivait aussi. Et donc, il y a toute une série comme ça d'événements, mais dans l'esprit, dans la mémoire, effectivement, et dans la légende, c'est Poulidor qui, plus exactement, perd ce jour dans le Puy-de-Dôme. Et on croit même que c'est lui qui gagne l'étape, alors qu'il ne gagne pas l'étape du Puy-de-Dôme. Ça, c'est très, très dommage pour celui qui gagne. En l'occurrence, Jiménez qui gagne devant Bahamontès. Poulidor est troisième, et Antil, même pas quatre, je crois qu'il doit être cinquième. Donc, il y avait Adorni qui s'est glissé là-dedans, sauf erreur de ma part. Donc voilà, il y a toute une succession d'épisodes comme ça, et on est avec une rivalité. Alors après, effectivement, ils sont devenus copains, ils jouent aux cartes ensemble, etc. Mais là, la rivalité était quand même très forte, à quel point Antil dit que s'il avait perdu le maillot jaune au sommet du Puy-de-Dôme, il aurait arrêté le tour. Ça avait comme un candidat qui perdrait l'élection présidentielle au premier tour et qui arrêterait la vie politique. Un peu de ça. Moi, je fais toujours le rapport avec la politique. Hein. C'était mon double fond de commerce, si j'ose dire.
Mais cette rivalité entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil, elle a duré pendant des années. Pourquoi est-ce qu'elle s'incarne particulièrement sur 1964 et qu'est-ce qui ferait que cette édition, elle est unique de ce point de vue-là?
Parce que dans leur rivalité dans le Tour de France, finalement, ils ne font pas beaucoup de Tour de France l'un contre l'autre. Hein, 62, 63, 64, 66. Donc, il y en a relativement peu, mais cette année-là, Poulidor pouvait vraiment le battre. La bêtise de Monaco et de la minute de bonification perdue, c'est quand même invraisemblable, quoi. Donc là, vraiment, c'est au paroxysme. Il y aura une autre période de paroxysme de leur rivalité, c'est 66 dans Paris-Nice, où Poulidor bat d'abord Antil contre la montre et finalement perd Paris-Nice. Donc là, il y aura même des mots désagréables qui seront échangés entre les deux. Mais là où ils sont plus à touche-touche, c'est le cas de la photo d'ailleurs, hein, qui est les deux épaules qui se touchent dans les dernières centaines de mètres du Puy-de-Dôme. Oui, là, c'était vraiment poussé à... Et c'était, je crois que les gens aujourd'hui n'imaginent pas la... Alors, c'était très ancien combattant de raconter ces histoires-là, hein, mais la passion et presque l'hystérie qu'il y avait entre les Antilistes et les Poulidoristes. Donc, avec des gens qui disaient « Ah, oh, ton Poulidor, c'est un tocard, il perd toujours », et des autres qui disaient « Antil, c'est un prétentieux, il regarde tout le monde de haut, il n'aime pas les autres ». Voilà, c'était pas tendre, cette affaire.
C'est souvent, c'est, il faut forcément qu'il y ait deux camps à chaque fois pour qu'il y ait un beau tour. On parle c'est régulièrement, Laurent, on y viendra un peu plus tard, mais le Tour 89, c'est également un duel. C'est un des ingrédients principaux qu'il faut pour qu'un tour soit réussi, c'est qu'il y ait deux camps bien séparés.
Pas forcément, parce qu'il y a eu des tours intéressants où c'était pas... à ce point où ça ne se focalisait pas à ce point sur deux personnes, mais en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est un duel franco-français, hein. c'est un second tour d'élection présidentielle.
Moi, je pense qu'il faut quand même, je suis d'accord, évidemment, il y a eu des très très grands tours où il y avait 3, 4, 5 protagonistes, il y a même des grands tours qui peuvent être écrasés par un très grand champion. Moi, j'ai failli choisir le tour 1987 où c'était plutôt une bagarre à 4, une lutte à 2 qu'un duel, mais je trouve quand même que la magie du cyclisme et du tour, elle est vraiment décuplée quand on se retrouve avec comme ça deux hommes face à face. Il y a, le tour, c'est tout un peloton, mais il y a un moment où il y a deux champions qui s'isolent du reste, et d'ailleurs qui s'isolent pas forcément devant, parce que c'est vrai que cette étape du Puy-de-Dôme, paradoxalement, Poulidor l'a toujours dit, il n'a aucun regret ce jour-là, parce que de toute façon, lui, il était à l'agonie, et il a juste agonisé un petit peu plus tôt que lui, ce qui lui a permis de le lâcher. Mais vraiment, ils n'étaient pas bien tous les deux ce jour-là.
On était cuits tous les deux, a dit Poulidor.
Ah oui, non, Poulidor a toujours dit vraiment que tout le monde lui parle toujours du Puy de Dôme, mais il comprend tout à fait pourquoi, parce que voilà, parce qu'ils ne sont plus que tous les deux. Peu importe qui en est devant, qui en est derrière, ils sont tous les deux sur la route, ils sont épaule contre épaule, c'est une image qui est vraiment, vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'ils ne sont, sont pas impériaux, ni l'un ni l'autre ce jour-là, mais ils sont seuls et le reste du tour, le reste du monde n'existe plus. Donc je pense quand même que le cyclisme est vraiment magnifié dans ces instants-là, et on en reparlera après, évidemment pour 89 aussi. Moi je veux juste dire un petit mot sur le tour 64, que je suis trop jeune ou pas assez vieux pour l'avoir vécu, mais je l'ai vécu par procuration, parce que si Béatrice est normande, moi je suis, même si je suis pas né là-bas, toute ma famille est originaire du Limousin. Et une grande partie de ma famille vit encore à Saint-Léonard-de-Noblat, qui est la ville de Raymond Poulidor. Mon père a grandi là-bas, donc il a grandi dans le culte de Poulidor. Et là-bas, par contre, je crois, à mon avis, il n'y avait pas grand monde qui était pour Antille. S'il y avait des Normands qui soutenaient Poulidor, il y avait peu de Mioletous, comme on les appelle, les habitants de Saint-Léo, qui étaient pour Antille. Donc c'est vrai que moi, je l'ai vécu un peu par procuration. Après coup, on me l'a raconté, je l'ai lu, je l'ai vu. Et je pense que peut-être que paradoxalement, les tours les plus mythiques sont ceux qu'on n'a pas vécu, mais qu'on a lu, qu'on a connu par la littérature. Et je pense que ce n'est pas vrai que pour le Tour de France, une équipe comme en football, la Hongrie des années 50, il y a très peu de gens qui l'ont vu. D'abord parce que ça commence à vraiment dater, et ensuite parce qu'il y avait très peu de foot à la télé, il y avait très peu de télé déjà. Mais on l'a lu, et quand on vous raconte ces épopées-là, elles ont une saveur qui est différente et qui est peut-être un petit peu plus légendaire que réelle. Donc pour moi, c'est un tour un peu légendaire. Après, je pense qu'objectivement, c'est un tour qui est immense. Jacques Baudet l'appelait le tour des tours. Et il y a 5 ou 6 étapes, je pense, dans ce tour 64 qui pourraient être dans un top 20 des plus grandes étapes de l'histoire du tour. Donc c'est pas rien, quoi.
C'est une bonne idée, ça, d'ailleurs, Laurent. Il faudrait y penser pour une prochaine série. Top 20 des étapes. Ce duel, c'est marrant. Ça me fait penser surtout à quelque chose d'autre. Tu parlais, du fait que c'est des grands tours, ce n'est pas forcément des tours qu'on a connus. Mais si j'en crois ce que vous avez choisi comme tour, Béatrice et Laurent, c'est quand même des tours qui sont déroulés plutôt dans votre enfance, quand vous étiez jeune. Est-ce qu'il y a ce côté aussi un peu Madeleine de Proust qui remonte et quelque chose? C'était
les... je pense, oui. Alors, je ne sais pas si on passe tout de suite à 89 ou pas, mais...
On peut.
Moi, si j'ai choisi le Tour 89, c'est aussi parce que c'est peut-être ma dernière très grande émotion d'enfant. J'avais 14 ans à l'époque, d'adolescence, si on veut. Mais je peux vivre aujourd'hui, en tant que journaliste, des émotions très fortes devant du sport, mais c'est un peu différent, d'abord parce que je suis plus âgé et parce qu'il y a aussi la dimension professionnelle qui fait qu'on a quand même un peu plus de distance, je pense, et pas tout à fait le même regard. Quand on est gamin, on a un regard de gamin. Et moi, c'est la dernière fois que j'ai pleuré devant du sport, pleuré de tristesse, quoi. J'adorais Laurent Fignon. Et depuis 30 ans, je ne me souviens pas avoir été dans un état pareil pour une défaite d'une équipe ou d'un champion que je pouvais admirer. Donc oui, évidemment, je pense que l'empreinte de l'enfance, elle est très très forte dans un souvenir. Ça, c'est à mon avis incontestable.
Béatrice, vous aussi?
Bah oui, et d'autant que effectivement, moi, 1964, j'ai ce souvenir de la dernière étape, c'est tout. Hein. J'ai pas de souvenir du reste du Tour ni du maillot jaune de Georges Goussard pendant 10 jours, quand même. Il y avait aussi, mais vraiment beaucoup de franco-français, hein, cette année-là. Mais c'est mon premier souvenir qui me ramène au cyclisme. Donc ça. Même si je m'y suis surtout intéressée ensuite à partir de 66, moi en 64 j'ai 10 ans, c'est simple, donc je suis vraiment très 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 jeune. Et je pense qu'il y a un petit déclic qui s'est déclenché ce jour-là, et puis bah, tout le reste est venu de surcroît derrière. Et puis le regard de l'enfance, et puis le jour de cette fameuse étape, moi je tournais dans le quartier sur mon petit vélo avec les copains du quartier pour faire des courses où on devait s'imaginer qu'on faisait la étape contre la montre Versailles-Paris. C'est l'enfance, c'est les beautés de l'enfance.
Il y a un truc assez fou à propos de cette dernière étape aussi, c'est Daniel Potras qui était, pas le commentateur, mais qui interviewait, qui faisait les interviews à l'arrivée, c'était au Parc des Princes.
Au Parc des Princes, oui.
C'est lui qui annonce, en fait il y a eu je ne sais plus comment ça se passe, qui fait l'erreur, mais on annonce à Poulidor qu'il a gagné.
Oui.
Il a gagné le tour à l'issue du chrono. Et c'est Daniel Potra qui lui annonce que non, il dit non, Raymond, vous êtes battu pour je ne sais plus combien. D'ailleurs, il est battu dans le contre-la-montre, donc il n'avait vraiment qu'une chance de gagner. Je ne sais plus comment c'est arrivé aux oreilles de Poulidor qu'il avait gagné le tour, mais pendant quelques secondes, il a cru vraiment qu'il avait gagné. Donc, c'était un peu le résumé aussi de l'histoire de Poulidor avec le tour, fait de moments glorieux et surtout d'immenses frustrations. Et c'est un peu la goutte d'eau quoi, pour lui, cette histoire de fausse victoire.
Oui, on l'entend d'ailleurs, il y a un enregistrement, on l'entend dire de cette voix un petit peu traînante. Ben, je ne comprends pas, on m'a dit que j'avais gagné. Ben, oui, on m'a dit que j'avais gagné, mais non, j'ai perdu. Tout à fait un résumé aussi de plein de choses pour lui.
Moment triste également, on a commencé à l'évoquer, Laurent, c'était larmes, c'est les 8 secondes de Laurent Fignon derrière Greg LeMond lors du Tour de France 89. Alors au-delà de cette tristesse, pourquoi c'est un des plus grands tours de l'histoire ?
En deux mots, 8 secondes, c'est impensable. Après 3 semaines d'une bagarre d'une telle intensité, après tant de rebondissements, qu'un Tour de France puisse se jouer à 8 secondes, c'est d'une beauté et d'une cruauté absolue. Moi, mes larmes, c'était des larmes de colère plus que de tristesse encore, je pense. Parce que j'étais, et je suis toujours persuadé que Laurent Fignon, je ne vais pas dire que Greg LeMond ne méritait pas de gagner ce Tour. On sait en plus d'où il revenait après son accident de chasse 2 ans avant. C'est une résurrection, une des plus belles de l'histoire du sport. Mais je pense quand même que sur ces 3 semaines, Fignon a été celui qui a animé la course entre les deux. En tout cas, LeMond a été plus dans la... Il gagne sur les trois chronos, LeMond. Après, il n'avait pas d'équipe. Hein. L'équipe ADR était très, très faible. Donc, il a un énorme mérite, LeMond. Mais je trouvais ça vraiment très, très dur pour Laurent Fignon. Et au-delà de ça, vraiment, c'est un tour qui est complètement dingue. Ça commence par le prologue au Luxembourg avec Pedro Delgado, qui est le tenant du titre, et qui se présente sur la rampe de départ avec 2 minutes 40 de retard. C'est complètement délirant. Le lendemain, il est encore complètement perturbé par cette histoire. Il reprend 5 minutes dans le chrono par équipe. Les Reynolds, à l'époque, sont obligés de l'attendre plusieurs fois. Donc, on est le dimanche soir, et Delgado, qui était quand même le favori du tour avec Fignon. LeMond, personne n'en parlait. Hein. Il n'avait rien fait depuis des mois. Et Delgado se retrouve à plus de 7 minutes au général. Donc, c'est complètement fou d'entrer dès le premier week-end. Après, il y a LeMond qui va rentrer en scène, qui va prendre le maillot jaune en Bretagne lors du premier contre-la-montre. Et puis, ça va être le chassé-croisé entre Fignon et LeMond, les Pyrénées, le chrono d'Orcières-Merlette, les Alpes, évidemment l'Alpe d'Huez. Il y a une étape qui est très sous-estimée pour moi, c'est l'étape de Super Bagnères dans les Pyrénées, qui est une des plus belles étapes que j'ai vues sur le Tour, avec Delgado qui attaque dans tous les sens parce qu'il a beaucoup, beaucoup de retard, qui part avec Millard et Motet. Et derrière Fignon, c'est un peu anti-Poulidor au Puy-de-Dôme, cette histoire. Parce que, en fait, dans les grands moments de ce Tour entre eux, en montagne, jamais ils étaient vraiment au top. Que ce soit Super Bagnères où Fignon va attaquer pour prendre le maillot pour 5 secondes, ou à l'Alpe d'Huez où Fignon va encore lâcher LeMond, mais sur la fin avec Guimard qui lui dit « attaque, il est cuit » et Fignon qui lui dit « mais je suis cuit moi aussi » puis finalement il va y aller. Donc ouais, il y a un petit peu d'anti-Poulidor aussi. Et puis voilà, ça n'a pas arrêté. La dernière semaine est grandiose avec la victoire de Fignon à Villard-de-Lans. Et évidemment, le dernier contre-la-montre qui est un monument de dramaturgie sportive. Je ne sais pas si on peut égaler ça. Je suis très partagé sur le côté chrono du dernier jour sur les champs. Je sais pas si c'est pas quand même d'une cruauté trop grande que de perdre un maillot jaune le dernier jour sur les Champs-Élysées.
C'est ce que considèrent aujourd'hui les organisateurs du Tour, en tout cas, qui assument parfaitement cette étape parade sur les Champs-Élysées,
ouais, qui termine par
un sprint, et qui l'ont sanctuarisé et qui ne veulent plus remettre en scène ce qu'on a pu connaître cette année-là, même si c'était extraordinaire en termes d'émotion, c'est plus du tout ce qu'ils choisissent de mettre en avant aujourd'hui.
Et je pense que c'est très bien, parce que alors, je comprends qu'on puisse avancer l'argument contraire, mais j'aime d'abord l'idée qu'il n'y en ait pas d'autre, que ce dénouement Fignon LeMond sur les champs dans le chrono pour 8 secondes reste quelque chose d'unique. Ça le renforcera encore dans les années, les décennies qui viennent au regard de l'histoire. Et puis, à tort ou à raison, je trouve que l'arrivée à Paris sur les champs, ça doit être une joie et une récompense et un moment dont tous les coureurs du maillot jaune au dernier doivent pouvoir profiter.
Laurent, aujourd'hui, tu nous dis que pour toi, l'édition 1989 est la plus grande édition du Tour, ou en tout cas une édition extraordinaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu nous aurais dit en août 1989 ou même en 1990, en 91, ou est-ce qu'il a fallu du temps aussi pour admettre ça? Et est-ce que même globalement, au-delà de toi, tu penses qu'en France, on a tout de suite perçu que c'était quelque chose d'extraordinaire, ou on a d'abord dû digérer le coup de massue que Laurent Fignon s'est pris à ce moment-là?
Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment à digérer parce que Fignon n'était pas un coureur très populaire. Il avait ses supporters, il y avait des gens qui l'aimaient, mais c'était quelqu'un d'entier, quelqu'un de pas facile, qui ne transigeait pas avec sa liberté de parole et qui ne cherchait pas à séduire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'aimait pas beaucoup Greg LeMond. Il lui reprochait, là encore je pense qu'il exagérait, mais d'être dans la séduction vis-à-vis du public, vis-à-vis des journalistes. Lui, s'il avait envie de dire merde à quelqu'un, et moi j'ai pu en être le témoin, hein, il le disait. Voilà. Donc il se foutait de merde, donc il n'était pas hyper populaire. Et je pense qu'il y a beaucoup. Alors que LeMond était plutôt apprécié. Donc à mon avis, la défaite de Fignon l'a rendu populaire, l'a humanisé aux yeux des gens. Et il l'explique dans son autobiographie. Il dit que ces 8 secondes l'ont rendu plus populaire que ces deux victoires de 83 et 84. Et même peut-être
plus. Ce qui est très injuste.
Ah, mais ce qui est évidemment très injuste, oui.
Parce que son palmarès.
C'est d'abord un. Avant d'être le type qui a perdu le tour de 8 secondes, c'est celui qui en a gagné deux. Pour répondre à l'autre partie de ta question, Benoît, oui, vraiment, je pense qu'en 89, il se passait tellement de choses tous les jours, ou presque, qu'on avait conscience quand même de vivre un tour particulier, oui. Même avant le dénouement des 8 secondes. Et évidemment…
Il a balayé tout le reste, presque, au moins dans les mémoires.
Ah oui, quand le tour s'arrête comme ça, je pense que tout le monde comprend à l'instant T qu'on a vécu quelque chose d'historique et dont on reparlera 30 ans après.
C'est aussi un… Est-ce qu'on était conscient, parce que si je me souviens bien, Laurent Fignon était un peu blessé aussi sur le contre-la-montre. Oui. Le dernier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on savait ou est-ce qu'on l'a su après?
Non, on ne le savait pas. Même dans son équipe, très peu de gens étaient au courant. Vincent Barthaud m'a raconté qui était donc un des coéquipiers de Laurent Fignon chez Système U cette année-là. Barthaud, qui avait d'ailleurs gagné l'étape du 14 juillet du bicentenaire, Barthaud m'a raconté que dans le train qui les ramène à Paris entre le samedi soir, on commençait déjà, certains dans l'équipe, à calculer, à se répartir les primes de victoire, puisque le maillot jaune partage une partie de ses primes avec ses coéquipiers qui ont bossé pour lui. Donc, c'était un secret très bien gardé et on l'a vraiment su. Il en parle dès l'arrivée, dès l'interview, l'interview qui est vraiment assez dramatique de Jean-Paul Olivier, alors que Fignon est assis sur le bitume des champs, sur les pavés des champs, et où là, il lui explique qu'il ne savait même pas si 2 heures avant le départ du chrono, il pourrait prendre le départ, tellement il avait mal, il n'arrivait pas à pédaler.
Patrice, c'est un souvenir douloureux ou quel souvenir vous avez? Vous étiez plutôt pour LeMond ou pour Fignon à cette époque-là?
Alors, c'est assez particulier. Je crois que j'étais assez neutre cette année-là. Pour ne rien vous cacher, j'accouchais de ma deuxième fille le mois suivant. Donc, j'ai passé 3 semaines devant la télévision à me reposer devant ma télé, mais avec un peu la tête ailleurs quand même, sur des questions plus personnelles. Mais en me passionnant, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est effectivement le maillot jaune qui change d'épaule. Je pense qu'on a quand même rarement vu ça, un jour l'un, un jour l'autre, et puis ce dénouement incroyable. Donc, je crois que j'étais un peu… Je crois que j'aimais bien les deux. Et j'ai pas le souvenir, si, la déception pour Fignon, évidemment, mais pas de manière énorme. Mais peut-être pour les raisons personnelles que je vous disais. Je voulais demander à Laurent l'histoire du guidon de triathlète de LeMond. À l'époque, il y a eu un vrai doute sur est-ce qu'il avait le droit ou pas. Je n'ai jamais réussi à élucider vraiment cette histoire.
Oui, il y a eu une vraie polémique. Donc, LeMond utilise, lors du premier contre-la-montre, un guidon de triathlète. Il y a eu une polémique parce qu'il était autorisé, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais plus si c'est l'UCI ou… Voilà, légalement… C'était un peu borderline, mais je pense qu'il a été malin. Il est passé un peu en force. Et l'erreur qu'a fait Fignon, et Fignon l'a admis d'ailleurs, c'est de ne pas l'avoir utilisé. Il regrette pas tant de ne pas l'avoir utilisé sur le tour que de ne pas l'avoir testé avant. parce qu'il n'était pas question pour lui de l'utiliser sans l'avoir testé.
Non,
il s'est rendu compte après coup, puisqu'après le tour 89, il a commencé à l'utiliser, qu'il était, oui, que c'était un vrai avantage. Donc, oui, bah, ça a rajouté un petit peu, voilà, un petit peu de piment à tout ça. Il y avait, c'était assez tendu entre les deux quand même. Enfin, c'était surtout tendu de la part de Fignon vers Lemon, plus que le contraire. Et ouais, ça a été un de ces éléments qui ont rajouté un petit peu de sel à toute cette histoire, à ce roman.
Un autre roman dont on va parler maintenant, c'est 2019. Alors là, c'est sûr que les souvenirs sont bien plus récents. Effectivement, on en a énormément parlé, hein, déjà sur Eurosport et Eurosport.fr. Benoît, toi, c'est ton tour préféré, c'est un des plus grands tours de l'histoire.
En tout cas, c'est ce dont je parlais avec Laurent quand on a préparé cette émission. Je pense que c'est toujours difficile évidemment de comparer historiquement. Et le Tour de France, on va faire la 107e édition cette année, si je ne dis pas de bêtises, ça date depuis 1903. Il y a eu différentes ères, différentes époques. Le Tour de France, après l'édition 1989, quand on arrive dans les années 1990, le cyclisme et le Tour de France changent d'ère. On passe dans une autre forme de professionnalisation, de spécialisation et de ces 30 dernières années, 2019 doit être sans discussion la plus grande édition à mes yeux. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça montre qu'on retrouve l'émotion, et l'émotion pure, l'émotion dont on disait qu'elle avait disparu avec le calcul, que ce soit le calcul d'Indurain, la domination de l'US Postal ou la manière de courir des Sky et des Ineos. Tout ça a volé en éclats l'été dernier. Et on a à nouveau été transporté par l'émotion. C'est ça un grand Tour de France. C'est un Tour de France qui dépasse le côté événement sportif. On se retrouve dans un voyage de 3 semaines, des montagnes russes émotionnelles. En 2019, il y a des grands moments de bonheur pour beaucoup de fans de vélo, je pense. Il y a aussi une énorme dramaturgie. C'est très ambivalent, mais c'est un tourbillon d'émotions qui nous emporte. Et 2019, de ce point de vue-là, est très haut, est un très bon challenger. Je me suis refait, juste pour préparer cette émission, je me suis regardé une vidéo d'une heure de résumé un peu de ce qu'avait été l'édition 2019. C'est les poils de la première à la dernière étape. On a les frissons, on a des grands champions charismatiques qui font le spectacle, qui font voler un peu en éclat les codes de course, comme je disais. Les organisateurs aussi réussissent leur pari au niveau du parcours. Ça fait des années qu'on dit, les organisateurs offrent, les coureurs disposent, enfin les organisateurs proposent, les coureurs disposent, et ben il y a quand même des manières d'essayer de les inciter à faire du spectacle. Et à ASO, en 2019, ils ont réussi leur pari avec, ça commence avec le show de Julien Alaphilippe dès les premières étapes, et ensuite ça enchaîne jusqu'à l'arrivée, et même l'arrivée, le final un peu avorté avec à cause des conditions météorologiques qui empêchent d'emprunter, enfin qui ont clairement écourté les deux grandes étapes des Alpes, et ben ça fait aussi partie de la grande dramaturgie du Tour de France et du fait qu'on parle d'un événement qu'on ne peut pas contrôler. C'est incontrôlable. Et la 19e étape du Tour de France 2019, de ce point de vue-là, c'est quand même l'abandon de Thibaut Pinot que toute la France, et même au-delà de ça, mais toute la France du cyclisme et beaucoup de fans en dehors de la France attendaient comme le messie du cyclisme qui devait apporter la victoire après 34 ans après Bernard Hinault. Et ensuite, on se retrouve avec un Egan Bernal qui se lance dans un show en montagne, un numéro là aussi extraordinaire. Il part dans l'avant-dernière ascension, ce qui est censé être l'avant-dernière ascension dans une très grande étape alpestre. Derrière, les conditions météo, la grêle, enfin, on perd le contrôle et c'est là que le Tour de France devient grand. Quand plus personne ne contrôle plus rien.
Ouais, Laurent, Béatrice, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu les larmes de Thibaut Pinot, et avant ça, il y a eu Julien Alaphilippe, et puis au final, la victoire de Egan Bernal, un des plus jeunes vainqueurs du Tour, tous les ingrédients sont réunis.
Ouais, non, c'est un... Vas-y, Béatrice.
Non, vas-y. Bah, c'est sûr, ça a été, moi, j'ai adoré ce Tour, ça, comme une formidable bouffée d'air frais, quoi, avec une course qui n'était plus cadenassée comme... On va se raconter d'histoire, il y a pas mal de Tour de France où il s'est ennuyé quand même.
C'est la fin de l'ennui.
Voilà. Et donc, oui, il y avait.
Ça bougeait tous les jours pendant 3 semaines.
Les choses se débloquent, il y a des choses qu'on n'attend pas, ça attaque, ça, on n'est plus dans le verrouillage intégral par une équipe. C'était un vrai bonheur pendant 3 semaines, oui.
D'accord, c'était un très grand tour. Je me dis quand même peut-être que le fait qu'on ait eu Julien Alaphilippe 2 semaines en jaune, que Thibaut Pinot ait cru à la victoire. Peut-être que c'est même si Thibaut Pinot est apprécié en dehors et Julien Alaphilippe admiré en dehors de notre pays, c'est d'abord un très grand tour, peut-être du point de vue franco-français, en tout cas encore plus du point de vue franco-français. La 19e étape, pour moi, elle restera vraiment dans l'histoire. C'est, en termes de dramaturgie, de rebondissement, c'est exceptionnel. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Benoît sur la césure après, au début des années 90, avec des coureurs qui... Il n'y a pas que l'histoire du dopage et le PO, il y a vraiment aussi...
C'est une manière d'aborder le cyclisme et le
tour. Voilà, exactement. Ils sont devenus des coureurs de courses par étapes, voire de grands tours, voire que de Tour de France. Donc, je suis d'accord avec ça. Je mettrais quand même deux bémols. Je te trouve un tout petit peu injuste, Benoît. Pour moi, il y a quand même eu d'autres tours de très grande qualité entre le début des années 90 et 2019. Et je pense à un tour comme 2011 qui, pour moi, est assez proche du Tour 2019. On peut rapprocher les deux avec un Français qui avait été en jaune très longtemps aussi et qui était un tour magnifique avec vraiment beaucoup d'audace, deux étapes complètement folles, celle du Galibier et celle de l'Alpe d'Huez.
L'Alpe d'Huez pour finir, oui.
Des coureurs qui attaquent, des grands coureurs, des leaders qui attaquaient très très loin. Donc, je trouve quand même que voilà, c'était pas le néant non plus avant. Et il y a un autre tour, alors ça va être un petit peu polémique, mais pour moi, j'ai détesté les années Armstrong. Pas tant parce que je déteste Armstrong, mais parce que je me suis vraiment ennuyé et sa domination a failli me détourner du tour. Mais le Tour 2003, pour moi, le Tour du Centenaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'était un tour avec des images de légende. Alors évidemment, rétrospectivement, on peut se dire Armstrong était dopé, voire les 10 premiers étaient dopés. Mais ce n'est pas le dopage qui fait l'intérêt d'un tour. Le Tour 2002 était... Pardon, chiant à mourir, non. Le Tour 2003 était légendaire.
Ça ne fera pas l'intérêt du Tour, mais du coup, si on parle de la place qu'il a dans l'histoire et d'une grande édition, ça élimine en quelque sorte le Tour 2003 qui n'a pas de vainqueur.
Donc pour il n'a pas de vainqueur, mais je veux dire, la traversée d'Armstrong dans le champ...
Ça, c'est une image mythique, mais on a l'image mythique du Tour.
Oui, et ce Tour 2003 est quand même gavé d'images mythiques. Donc, je suis d'accord, il n'existe plus en termes de palmarès. On ne va pas refaire le débat que tu as eu avec Nicolas Fritsch sur Armstrong. Bernry, c'est toujours dans le palmarès. Lance Armstrong n'y est plus. Chacun peut en penser ce qu'il veut. Mais voilà, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a quand même eu, entre 89 et 2019, des tours exceptionnels.
Alors, je pense que le Tour 2019 aussi est gavé d'images mythiques, même si ça, c'est l'épreuve du temps qui le dira. Par rapport à 2011, il y a pas mal de similitudes, mais Julien Alaphilippe donne une autre dimension, je pense, par rapport à Thomas Vauclair, avec tout le respect qu'on peut avoir pour le coureur qui était Thomas Vauclair. Julien Alaphilippe est un autre type de champion et qui, du coup, bouscule plus la course et les favoris que ce que Thomas Vauclair pouvait faire. Et il y a aussi quand même une dimension historique qui dépasse le cadre franco-français, Egan Bernal. Alors, on verra. Cadel Evans, effectivement, c'est historique avec la première victoire d'un coureur australien et océanien. Egan Bernal, c'est quand même la concrétisation de la passion colombienne pour le Tour de France et inversement, la passion du cyclisme pour la Colombie. C'est un fantasme.
Tu as raison. Et puis, le plus jeune vainqueur depuis plus de 100 ans. Enfin, c'est...
Depuis 1909 et surtout depuis que le maillot jaune existe. Parce que ça, voilà. On a un jeunisme dans le Tour de France et donc on verra ce que les Pogacar, les Evenepoel ou d'autres vont nous amener dans les années qui viennent. Mais en attendant, le premier à avoir concrétisé ça, à avoir brisé la barrière de l'âge sur le Tour de France, c'est Egan Bernal. Et la fête du dimanche sur les Champs-Élysées avec le peuple colombien, c'était quand même une sacrée communion.
Je ne cherchais pas à hiérarchiser hein, et à dire le Tour 2011 était plus grand.
Mais je veux dire que la dimension historique du Tour de France 2019, même si c'est tout frais, je pense qu'elle est immense, juste à travers Egan Bernal. Et après, même Julien Alaphilippe, effectivement, c'est franco-français, mais du coup, 14 jours en jaune sur un même Tour de France pour un Français, ça nous ramène à Bernard Hinault quand même. Thibaut Pinot, et le doublé au sommet du Tourmalet, Pinot à la Philippe, là aussi on doit devoir retourner dans les années 80 voire même 70 pour avoir deux Français qui à la pédale sont les meilleurs sur une étape. Et l'émotion de Thibaut Pinot, elle a largement dépassé les frontières françaises. Moi, sur le Tour de France, je travaille avec des collègues qui sont entièrement étrangers, des Sud-Africains, des Australiens, des Britanniques. Mais tout le monde était scotché lors de son abandon et lors de la 19e étape. Et en plus de ça, alors je repense à, tu nous parlais de, on parlait de la blessure de Laurent Fignon et du fait qu'on ne savait pas qu'il était blessé et que du coup ça a rajouté à la dramaturgie, mais a posteriori. Thibaut Pinot, on a vu qu'il était blessé et le soir même, on avait les images à l'intérieur de l'équipe de comment ça s'était passé. Et ça aussi, ça fait que ça touche beaucoup plus émotionnellement. Et moi, je reviens à mon point de départ, c'est un grand tour, c'est un tour qui sont des montagnes russes émotionnelles qui emportent tout le monde sur leur passage. Et là-dessus, le fait d'avoir pu voir la détresse de Thibaut Pinot, c'est une image qui restera mais très, 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 très longtemps dans l'histoire du Tour de France. Ça me fait penser à... Tu es un grand admirateur de René Vietto. Ça me fait penser à ce genre d'images qui peuvent rester, mais pendant des décennies.
Assis sur le petit muret après avoir donné sa roue à Antonin Magne.
Exactement. Toute la détresse d'un homme, finalement, et qui n'est donc pas un gagnant. L'histoire ne retient pas que les gagnants, loin de là.
Et finalement, dans ces trois grands tours, parmi tant d'autres dont on a parlé, le point commun, c'est que le plus grand personnage n'en est pas forcément le vainqueur. La théorie du « on ne retient que les vainqueurs » vient de voler en éclat une fois plus, et ça fait très plaisir.
On retient les émotions, et ces trois éditions nous en ont donné beaucoup, ça, il n'y a aucun doute.
Exactement. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. On aurait pu évoquer encore de nombreux tours et on pourrait refaire l'histoire du Tour de France ad vitam aeternam. On reviendra, on proposera d'autres qui c'est le plus fort sur les grimpeurs, par exemple, qui c'est prévu dans les semaines à venir. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. On se dit à très bientôt. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, je le disais, de Acast à Spotify en passant par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à laisser des petits commentaires. Merci à tous, à très bientôt.
Merci, à bientôt. Salut.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.